Africa.
La maraboutique de Manu Dibango sur Africa Radio avec Robert Brazza.
Merci à BBC Afrique pour ce bulletin d'information présenté depuis Dakar. Dans un instant, les confidences d'Adama Bilorou Dembélé, le jeune disciple du Doyen Manou, au vibraphone, au marimba ou encore à la kora, et celle de Fatih Moussa, un des co-gérants de la boutique Barakatou, qui aura été d'ailleurs d'une grande aide pendant cette pandémie et pendant le confinement. Tout ça, c'est juste après une petite pause.
Le dimanche, c'est Manu Dibango sur Africa Radio.
Africa Radio 107.5 FM, ce dimanche, des invités dans cette maraboutique du Doyen Manou. Avant de retrouver d'ailleurs Fatih Moussa de la boutique Barakatou, un clin d'œil au grand Ray Lema dans l'album Hommage à Franco est arrivé dans toutes les bonnes crèmeries. On écoute évidemment le titre Mario. Avec le titre Mario, extrait de l'album Hommage au grand maître Franco, et dans la capitale parisienne, il se passe toujours des choses. La pandémie et l'histoire du Covid-19 retiendra qu'au sein de la capitale française, des hommes se seront levés pour dire dans un élan de solidarité que nous sommes finalement tous humains. Un 4 mai, regardant le journal de la chaîne TV5 et une scène épique dans le 18e arrondissement, une file de personnes de toutes les couleurs attendant devant une boutique, une distribution gratuite de masques. Le lieu Paris, la boutique Barakatou, 37 rue Stephenson, et un homme, Fatih Moussa, avec nous au micro d'Africa Radio. Bonjour Fatih.
Bonjour Robert. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui à votre radio.
Merci à toi d'abord, si j'ose dire, et à toute, toute la famille de cette enseigne Barakatou. Je situais le contexte tout à l'heure de cette pandémie, et je situais un contexte qui était celui où la France est confinée, où tout le monde se pose des questions, et où finalement une boutique qui vend des tissus de qualité, du basin entre autres, pour nous rendre belles et beaux, se décide à faire des masques et à les fabriquer, à les distribuer gratuitement. D'où vient cet élan ?
L'idée est venue après le confinement, une semaine, on va dire, des confinements. Bon, on a vu un petit peu que les personnes qui sont en premier rang, les pompiers, policiers, les aides-soignants, les aussi les médecins, qui crient un peu des secours, de leur aider à avoir les masques parce qu'ils n'en ont plus. Ils ont peur parce que la maladie qui s'est transmise est plus en plus. On était à la maison en tant qu'Africains, ça fait partie de notre vie, c'est une habitude chez nous. S'il y a un problème, le dernier centime qu'on a, on partage. Donc l'idée est venue juste comme ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'en tant que citoyen, en tant qu'Africain, en tant que Français, qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays? Parce que c'est un devoir de tout le monde de participer. Et puis on a vu aussi nos dirigeants un petit peu partout dans le monde qui demandent aide. Et chacun, il fait ce qu'il peut. Donc l'idée est venue juste comme ça que je me suis dit, bon, dans ces cas-là, on a les tissus. On a la possibilité de faire de la production et pourquoi pas. Du coup, j'ai appelé mon cousin Elias Patengay et je lui ai proposé cette idée-là. Il me dit, bien sûr que oui. On s'est pris le rendez-vous, on est venu dans la boutique. On n'a pas le droit de travailler parce qu'on était tous confinés. Mais comme c'était un acte solidaire, solidarité, donc on a dit, on va essayer de prendre le risque un peu de travailler là-dessus. Et puis j'ai contacté le tailleur. Il y avait un tonton qui s'appelle Bonfoignant, qui était à la retraite. Et je l'ai appelé, je lui ai demandé, il était très très content et fier. Il me dit, il n'y a pas de problème, je viens. Et puis on est parti, l'atelier que j'ai un partenariat avec et qui travaille pour nous, comme nous sommes vendeurs de bazar, je suis aussi styliste qui crée des modes africains. Donc il me dit, il n'y a pas de souci. On est venu, on a regardé un petit peu sur Internet les normes à respecter, comment il faut produire. On est tombé les bonnes formes et puis aussi... c'est parti sur ces coulants. On a fait, le lendemain, on a fait des prototypes, c'était OK. Et puis on a lancé, on a commencé à distribuer les pompiers, police, et puis les aides-soignants et les hôpitaux. Et à un moment donné, on a vu aussi qu'il y a des gens qui sont en difficulté, sont malades, ils ne peuvent pas sortir. Et dans ces cas-là, sur le statut de El Hadj, il a posté les masques. Il y a un vieux qui a appelé dans les 95. Il est parti, il a distribué la masque ces jours-là. Et le vieux a beaucoup pleuré.
C'est-à-dire que cet élan, parce que finalement, Fatih, tu racontes tout le processus et on sent que ça a été très spontané. Mais nous qui pensions uniquement à la distribution devant la boutique Barakatou dans le 18e, finalement, vous avez eu à emmener également des masques dans la région parisienne à des personnes?
Oui, depuis Paris, 75, jusqu'à 78, on a distribué toute la région parisienne. On en a fait 250 avant même qu'on lance la grande distribution. Donc, quand on avait fait ça, ce vieux-là a discuté et a pleuré ces jours-là. Et là, il est venu et me dit, aujourd'hui, il y a une scène qui s'est passée et puis c'est très, très émouvant. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a rencontré et il me dit, comment ça a été passé? Après, je lui ai dit, j'ai regardé, j'ai rigolé, j'ai dit, dans ces cas-là, tant que le corona il est là, nous sommes là.
Et quand vous dites tant que le corona est là, nous sommes là, ça veut dire que vous qui êtes des commerçants d'habitude, qui vendez ces tissus, comment est-ce qu'on imagine après se transformer finalement en des personnes de cette fameuse deuxième ligne? Parce qu'on a parlé de la première ligne avec les médecins, les soignants, la deuxième ligne avec ceux qui vendaient dans les centres commerciaux et autres. Finalement, vous faites partie aussi d'une ligne, parce qu'à votre façon, vous avez lutté contre cette pandémie, qui d'ailleurs, on le rappelle, est toujours en cours et il faut faire attention. Vous avez été des gens aussi qui étaient dans l'action.
Oui, nous sommes des gens qui étaient dans l'action, mais comme on sait déjà, le risque, il est là, donc on essaie de faire le maximum de se porter, c'est aussi. On sort tout le temps avec les masques, les gants, et puis les gels, les gels aussi. Donc, on a fait tout ça, mais... comme on a commencé cette action-là, mais on ne peut pas se promener tout le temps parce qu'il y a aussi le risque, la police y contrôle beaucoup. Je dis à Elias, il faut qu'on trouve une solution par rapport à celui-là. On voulait donner, mais il faut qu'on essaye de faire un petit communiqué. Celles qui ont la capacité de venir nous récupérer, ils viennent. bah, on l'a fait ça. On a lancé cette communiqué-là, on a envoyé le message Le Parisien. Il nous a répondu, bah, on m'a appelé, j'ai discuté un peu avec eux. Ils me disent, ok, il n'y a pas de problème, mais ils ne m'ont pas dit, on va le faire ou pas. C'était un dimanche, mon téléphone il commence à sonner. Les gens ils me disent, oui, on a entendu que vous voulez faire une distribution de masques gratuits à un grand public. Je dis, oui, bien sûr qu'il n'y a pas de souci. Première, deuxième, troisième personne, quatrième personne, je lui demande des idées, mais... Vous avez vu ça où? Il me dit c'est le Parisien qui a
écrit l'article, qui a fait le relais.
Exactement. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Le 27 lundi, 13h30, CNews m'ont contacté. Les deux qui sont devant le magasin, on devait faire distribution des masques. J'ai dit ouais, mais nous c'est 17h. Hein. Il me dit, oui, mais il faut passer. On va faire une petite interview. Je dis, non, ça, je ne peux pas passer maintenant. On commence à 17h. Il me dit, bon, si vous pouvez venir peut-être une heure d'avant. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. On est venu, on les a trouvés ici. Ils ont fait 5 minutes d'interview. Ils sont partis. Ils sont revenus. Il me dit, non, finalement, on va faire le live. Parce qu'il y a une émission qui va commencer à 17h. On va faire le live. Ils sont faits. Bah, c'est là, et lui me dit, mais est-ce que vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je dis, mais pourquoi?
Bah, c'est la question que j'allais dire, parce que le Parisien est une chose, la presse écrite, c'est News qui est la presse télévisuelle, et ensuite TV5. En venant dans la boutique, je trouve des gens très simples, qui sont des commerçants tout à fait sérieux, des personnes presque effacées. Et tout à coup, vous avez des centaines de milliers de personnes qui vous regardent, y compris via les chaînes câblées jusqu'en Afrique. Et un Robert Brazza, peut-être, qui vous envoie un message un soir, vous êtes surpris. Comment est-ce que vous l'avez vécu, ça? Est-ce que ça a changé votre vision des choses par rapport à votre action et à ce que vous faites?
Non, en fait, ça fait vraiment rigoler parce que, en fait, en réalité, je ne m'entendais pas. Je ne connais même pas ça. En fait, nous, en Afrique, nous sommes élevés pour dire que, voilà, si vous avez quelque chose, partagez-le. En fait, pour moi, le médiatique, c'est la première fois dans ma vie et je ne sais même pas que ça va faire. Les journalistes, quand ils me disent, ouais, mais il aura du monde. Je dis, mais non, là, on va donner petit à petit et c'est tout. Ils me disent, vous verrez. Après, du coup, il y a quelqu'un qui est passé, et c'est en français. Il a demandé l'âge. Il a dit, vous allez distribuer le masque? Il a dit, ouais. Il a dit, mais est-ce que vous avez que Anne Hidalgo a tweeté sur vous? Il a dit, non, ça c'est faux ça. Il a dit, si, attention, il aura du monde. Après, du coup, bon, on l'a dit, bah, il faut prendre un petit peu au sérieux. Mais on va dire, Dieu merci, parce que nous sommes toujours bien préparés. Il n'y a pas des trucs qui vont nous faire peur et tout, parce qu'on était élevés comme ça, et nous sommes toujours préparés.
Mais préparés à produire autant de masques, au final, combien de masques ont été produits? Parce que moi, j'ai vu la file d'attente dans le bulletin d'information, et quand j'ai regardé la file d'attente, est-ce qu'on n'est pas victime après du succès? Quand il faut fermer, ou alors dire, il n'y en a plus pour aujourd'hui, revenez, comment est-ce qu'on se sent? Parce qu'on est un peu, on peut être dépassé par les événements.
Oui, on était dépassé vraiment pour les événements parce qu'on avait prévu pour 500 masques le 27 jusqu'à le 11. Le 27 même, il y avait 350 qui étaient produits. Non, 370, on a tout distribué en 40 minutes. On a reproduit encore le premier 600 masques. Et puis le 8, il y avait 1200. Ces 1200-là, on l'a commencé même pas 8 minutes, je pense. La police est venue, ils ont interrompu la distribution.
Pour cause de non-respect de la distanciation, nous aviez-on dit?
Soi-disant. Mais ce n'était pas la réalité. Parce qu'après, je regardais le reportage qu'ils étaient passés. Franchement, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec celle-là. Mais comme c'est ce qu'ils ont dit, et puis ils ont dit de fermer, on est obligé de fermer. Mais on l'a fermé. Mais les élus qui étaient venus, parce que chaque fois, il y a beaucoup plus de monde, ces jours-là, quand la police est venue, il nous a dit qu'il y a 700 personnes au moins dehors. Donc c'est trop, on ne peut pas contrôler les foules. Mais les gens, ils n'ont pas fait le bagarre, il n'y avait pas de problème. Ils ont dit d'arrêter, on a arrêté. Bon, ils m'ont dit, bon, dans ces cas-là, comment on va faire? Je dis, bah, nous, on va tout donner aux associations, parce qu'on travaille aussi avec des associations. Après, la députée du 18e, j'ai oublié son nom, elle a dit non, hors de question. ça va se distribuer dans le 18e. Il va voir avec le maire et les commissaires, mais c'est obligé, il faut qu'on le fasse ici. Bah, il s'est contacté, le soir on m'a appelé, on me dit bah, demain si vous êtes prêts, on peut le redistribuer encore. Demain, ils ont organisé une trentaine de bénévoles, les jeunes qui sont dans le quartier, ils sont venus, ils sont encadrés et tout. Et le maire du 18e, même, il était là. Et puis, on a distribué le dernier distribution. Ces jours-là, on a fait 1000 et quelques choses.
Aujourd'hui, la pandémie, du moins le team phase de déconfinement a eu lieu. Les choses sont en train de revenir, je dirais, à la normale. La vente des masques s'est vulgarisée au niveau des centres commerciaux, dans les officines de pharmacie. Est-ce qu'il y a encore des gens qui font appel au niveau de Barakatou, qui disent, parce qu'il y a aussi un côté original. Il ne faut pas oublier que les masques mettaient en avant un côté africain, ethnique, avec des teintes, des couleurs qu'on ne trouvait pas ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui encore les gens vous sollicitent ou vous en demandent?
Oui, franchement, après, on a eu beaucoup de sollicitations un peu partout, que ce soit en Europe ici, aux États-Unis, en Afrique même. Mais on a choisi de travailler beaucoup avec les associations. Parce que l'action, elle n'était pas venue pour gagner de l'argent là-dessus. L'action est venue pour aider les gens. Donc tout ce qu'on a fait, on a distribué au moins 5000 masques. Mais ces 5000 masques, depuis qu'on a commencé jusqu'à présent, il y a même les masques qui sont là, qui devaient aller à Mayotte. Donc notre action était basée sur distribuer, aider les gens. Il y a des associations qui nous ont donné un coup de main. Prix coûtant. Par exemple, Afrique numéro 1. Deux fois, ils ont commandé, mais ils nous aident à acheter des tissus, des produits. Il y a beaucoup d'associations qui ont fait ça. De dire, allez, les tissus coûtent combien? On va vous aider juste parce qu'on a besoin de 500. Il y en a qui commandent 1000, il y en a qui commandent plus. Mais juste nous aider pour de sortir dans nos frais. Mais il n'y a pas eu de vente. Et actuellement, pour le moment, on n'a pas encore commencé à commercialiser.
Il y aura forcément, Fatih Moussa, un avant et un après cette expérience du Covid pour Barakatou. Il y aura aussi un avant et un après sur le plan humain. C'est-à-dire que El Hadj, Patendia et vous-même, il y a eu peut-être aussi une réflexion sur la manière dont les uns peuvent s'aider avec les autres. C'est vrai qu'on parlait de l'éducation, c'est dans une éducation africaine, mais est-ce que quelque chose a changé réellement maintenant dans l'homme qui est là et qui est en face de moi? Est-ce qu'à l'intérieur, il y a eu un déclic qui s'est fait?
Oui, sincèrement, il y a des choses qui sont changées à ma personne. L'éducation a eu toujours considéré les autres. Mais pendant ces moments-là, ça me donne encore beaucoup plus de courage. Avant de penser à soi-même, il faut savoir dans la vie qu'il y a des autres qui souffrent, quelle que soit votre condition. Donc, cela, ça me donnait une image positive. Et je dis, dans ce cas-là, moi, je préférais qu'on crée Fondation Barakatou. Parce que moi, je pense que notre bonheur, c'est de faire sourire les gens. Et dans ces cas-là, ça m'a donné beaucoup de courage tant qu'Africain. Et puis je remercie aussi tous les doyens africains qui ils ont vu cette image-là. Ils ont pris leur téléphone, nous ont envoyé des messages, comme vous-même, Robert Brassard. Il y avait même les rappeurs Booba. Il y avait aussi des personnalités, même notre président du Sénégal qui a envoyé l'ambassade de nous appeler, de nous remercier. Donc, beaucoup de personnalités africaines nous ont envoyé des messages. Il y a aussi des acteurs, comme elle s'appelle, africains, qui ont vraiment été derrière nous, nous ont envoyé des messages de fierté et de contentement. Donc, je pense que ça change beaucoup.
Fierté et contentement, fierté déjà aussi de voir cette action en tant qu'Africain, des Africains qui s'inscrivent dans le cadre de ce pays qui s'appelle la France, qui a une longue histoire avec le continent africain et des ressortissants africains, des fils d'Afrique, parfois même dont les enfants naissent ici, pourront dire un jour dans l'histoire qu'en 2020, pendant la pandémie qui a traversé le monde, la France, eh bien, cette Afrique a répondu présente. Un dernier mot pour la notice explicative, Barakatou, je rappelle le site www.barakatou avec un k.com, Barakatou pour les jeunes loups qui sont nés ici, qui connaissent pas ce que ça veut dire, qui diront, papa, qu'est-ce que Barakatou ça veut dire dans la langue et c'est dans quelle langue?
Et Barakatou, c'est nous, ça soit Olof ou Mandeng ou Bambara. Et le Barakatou, c'est quelque chose qui a le Baraka. Mais en français ou en arabe, c'est traduit comme ça. Donc c'est quelque chose qui est puissant et intouchable, le Baraka. Parce que tout ce qu'il y a le Baraka, il est intouchable.
Et qu'on assimile souvent, peut-être un peu à tort, uniquement à la chance.
Exactement. Et s'il y a la chance, toujours on est bienvenu, tout ce qu'on fait, et ça passe. Donc le Baraka, tout c'est ça. Et j'ai aussi fait un petit signalement, la jeunesse africaine, qu'on ne baisse pas le bras, le continent sans nous. Et tout ce que les gens ils ont fait dans ce monde-là, on ne dit pas oui, c'est trop tard, moi ça. Non. On peut faire mieux que cela. On prend notre destin en main et d'essayer de faire le maximum de développer notre continent. Notre expérience qu'on peut avoir, point en porte dans ce monde-là, il faut qu'on l'apporte pour l'Afrique. Donc, c'est là, nous, notre porte est ouverte à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes, on a un magasin à Paris. On a ouvert en France, au Sénégal. Bientôt, on entend négocier pour le Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Gambie.
Et au Sénégal, à quel endroit?
On est à Liberté 6. Et on prend Liberté 6, il y a Barakatou là-bas. Donc, depuis un an, on entend négocier pour les autres pays aussi. Donc, la jeunesse africaine doit se réveiller, de donner la main. Et de taper les portes, parce que moi, dans ma tête, c'est ce que je dis. Tout ce que je fais aujourd'hui, Barakatou fait dans le monde, si un jeune Africain y vient, il rentrera. Parce qu'une fois qu'on essaie de... En début, c'est ce que je dis. À la banque, quand j'étais parti, il ne veut pas que j'ouvre mon compte. On m'a beaucoup fatigué. Et je fais va et vient. Un jour, je suis tombé sur une dame d'origine, je pense que martiniquaise. Ce jour-là, je suis tombé sur elle. C'était la directrice. Après, on a discuté un peu. Il me dit, vous ne lassez pas. J'ai dit, non, je ne lasse pas. Il me dit, c'est difficile. J'ai dit, non, mais écoute, madame, il y a deux mots que je vais vous dire. Carrefour était là, ils ont commencé à zéro. Renault, ils ont commencé à zéro. Ils sont arrivés où ils sont aujourd'hui. Ils n'ont pas fermé leur porte. Moi, je ne fermerai pas ma porte. Mais s'il me faut 10 ans devant votre porte, un jour, quelqu'un il va pitié de moi et je vais rentrer. Une fois que je rentre, tous ceux qui sont derrière moi, ils rentrent. Elle a rigolé et m'a dit « Bravo, je vous entends à la télé. » Et on est passé à la télé.
Et aujourd'hui, vous êtes sur Africa Radio et ce n'est pas fini avec un clin d'œil à Samaralita Issatiam et à mon petit frère Phil le Montagnard qui auront eu vent de cette aventure magnifique et Barakatou, donc, que vous avez entendu via les médias et de cette distribution de masques gratuits dans le 18e arrondissement. www.barakatou.com. Il paraît, me dit-on, il paraît que la Tabaski se déroulera à la fin du mois de juillet. Si vous êtes en panne de belles matières, eh bien, venez-y faire un tour, c'est un clin d'œil légitime pour saluer l'effort de Fatim Moussa et Delhadj Ndiaye qui est vraiment quelqu'un aussi de fantastique qu'on a vu d'ailleurs dans le reportage. Merci beaucoup Fatih et merci à toute la famille.
Merci à vous Robert, merci aussi à Africa Radio. Le partenariat a commencé dès le début, je crois bien que ça va continuer et je vous remercie vraiment bien d'avoir cru en nous et confiance en nous. Merci à vous.
Un beau morceau pour illustrer cet entretien qu'on a eu avec Fatih Moussa de Barakatou, un titre tiré de l'album Tiaroy d'Elhadj Ndiaye, tiens ça sonne bien, et le morceau s'appelle Nit Koubar, un grand homme qui s'avance avec la sagesse, le ram-ram vers le soleil. Merci.
Selway
LH Ndiaye pour célébrer d'ailleurs tous les amis de la boutique Barakatou qui auront donc fait ces masques qui nous auront été d'une grande utilité pendant le confinement et encore aujourd'hui. On n'oublie pas de respecter les mesures barrières. Adama Bilorou Dembélé, jeune prodige de la percussion, jeune prodige des balafons et de la kora, aurait été un des derniers musiciens à enregistrer avec le doyen Manu Dibango. Vous l'avez d'ailleurs vu dans ses lives tournés au sein de nos studios et dans la Maraboutique, aux côtés du doyen Manu, mais aussi aux côtés du doyen Mori Kanté, deux grands artistes aujourd'hui fiers de ce poulain originaire du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire qui n'a pas oublié les leçons du maître. Avant de le retrouver, un petit clin d'œil avec ce Djarabi qui nous avait joué dans les studios avec le doyen Manu. Sur Africa Radio avec ce Djarabi exercé magistralement, exécuté du moins, par le doyen Manu Dibango et Adama Bilorou Dembélé qui avait été très surpris ce jour-là de voir le doyen le rejoindre avec son sax rivé autour du cou, le rejoindre et se mettre à côté de lui sur ses balafons. Ça a été un moment d'histoire partagé sur internet à des centaines de milliers de fois et il en est résulté une belle histoire, une sorte de lien, une relation père-fils qui s'est nouée jusqu'au bout d'ailleurs, puisque au moment où Papa Manu, comme il l'appelle, tirait sa révérence, eh bien, les deux musiciens, les deux artistes étaient en train d'enregistrer un projet musical. Adama Bilorou est avec nous au micro de la Maraboutique. Bonjour Adama.
Bonjour grand frère Robert et bonjour à tous les auditeurs.
Comme on dit chez nous, vraiment, Yako, je te le dis autant que tu pourrais me le dire, parce que finalement, le doyen Manu est parti au moment où il prenait son envol. Toi, tu étais au Faso, moi, je me trouvais en Côte d'Ivoire, avant de regagner l'Hexagone le lendemain. Comment est-ce que tu as vécu ce moment et d'abord, comment l'as-tu appris ?
Ben, vraiment, ce moment était vraiment comme si j'y rêvais, si c'était un cauchemar, parce que je l'ai appris vaguement comme ça par des amis qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des annonces sur le Messenger. Et après j'ai dit non, parce que moi je suis arrivé normalement à Paris et le 19 on devrait enregistrer, sauf que quand je suis arrivé j'ai appelé Claire et puis avec la situation du pays et le monde on va dire, donc on avait déjà annulé les dates qu'on devrait faire et là je me suis retrouvé à prendre le vol pour aller à Ouaga le 17 et là j'ai dit je vais me renseigner et j'appelle tout. Après j'ai appris que voilà, que papa était à l'hôpital, mais que ça allait mieux, donc voilà, fallait pas s'inquiéter que c'était une fausse rumeur et tout ça. Et voilà, deux jours après, la nouvelle tombe, mais moi je croyais plus parce que je disais bon, on m'a déjà fait le coup, donc jusqu'à présent tu vois c'est un peu bizarre quoi. Je suis avec toi mais j'ai l'impression qu'il peut-être il va nous appeler, mais on va le voir quelque part. Jusqu'à présent j'arrive pas à réaliser sa disparition en fait.
C'est encore plus difficile parce que finalement quand on rentre chez toi Adama, la première chose que l'on voit c'est le vibraphone de Papa Manu. C'est un vibraphone qu'il t'a offert, qu'il t'a dédicacé. Et chez nous, les objets, surtout les objets qui lui sont très proches, sont toujours intimement liés au personnage. Ça veut dire que d'une certaine façon, tu es avec lui tous les jours.
Bien sûr, parce que le vivra, c'est comme si je rêvais de lui toujours, parce que chaque fois quand j'arrivais à la maison chez lui, il avait aussi le second vivra qui est devant sa maison, qui me disait, chaque fois quand je me réveille, il faut que je dise bonjour à la dame. Ça veut dire, le vivra, il faut qu'il le touche, il fait ses accords tous les jours. Donc, pour moi, c'est comme si ce rituel doit continuer. Donc, pour moi, c'est ce que je dois faire maintenant. Voilà, que peut-être c'était une indication que j'ai pu obtenir ces vibras. Je sais même pas, c'est, pour moi c'est pas un vibra, c'est plus que tout ce qu'on peut imaginer qui est sacré ou qui est important dans la vie d'un homme en fait pour moi.
Un instrument auquel il était très attaché. Beaucoup de gens étaient surpris d'ailleurs en voyant cette séquence vidéo. Quand on vous a vu tous les deux en train de jouer, il y en a qui se sont dit, mais enfin, le Doyen Manu, lui, il joue du saxophone, on ne le voit pas jouer autre chose. Pour rappel, l'harmonium, pour rappel, le piano, enfin, c'est quelqu'un qui taquinait tous les instruments. Et ce fameux vibra, les marimbas, comme des fois il aimait les appeler, sont des instruments qu'il a taquinés très très vite dans tous les orchestres dans lesquels il est passé. Mais le jour où tu as amené ton balafon à la radio, et François Richard était dans le studio et moi aussi, il y avait presque comme un jeu, parce qu'au départ, lui devait jouer du saxo, et toi devais jouer les balafons. Mais à un moment, toi, tu as sorti deux baguettes supplémentaires de ton sac. Alors, est-ce que tu avais prévu le coup ?
Ben, pas forcément, mais on en avait déjà parlé, parce que c'est arrivé qu'il m'avait parlé du balafon, et qu'il aimait beaucoup tout ça, mais souvent, quand il voulait délirer dans sa musicalité avec les balafonistes ici, qu'il s'était trop limité, que ce soit les balafons diatoniques ou les balafons pentatoniques, et comme j'ai eu l'idée de jouer le balafon chromatique, vraiment, ça lui est vraiment plu, et ça lui a enchanté. Et du coup, j'avais les quatre baguettes, et je me suis dit, bon, tiens, je sors les baguettes, tout, parce que peut-être ça va l'intéresser à jouer, et ça n'a pas raté, et puis voilà, c'est parti comme ça, et on s'est mis à jouer.
Ben, ça n'a pas raté, comme on dirait du côté de Babi, ça a pris. Ben, ça a tellement pris d'ailleurs, qu'à la fin, quand il joue, d'ailleurs, vous jouez Djarabi, et il va dans des variations, il se promène, et puis il rigole, comme d'ailleurs, on entend encore son rire comme ça dans notre esprit, et quelque chose d'incroyable se passe sur la toile. C'est-à-dire que moi qui filme cette vidéo, je la filme comme souvent des instants du live dans la Maraboutique, mais je n'ai aucune idée de ce que ça va devenir en termes de partage et de vues. On a des commentaires en espagnol, on a des commentaires en chinois, on a des commentaires dans toutes les langues. Ce retour-là, toi, tu le vis comment ? Pour toi qui, je le rappelle, a quand même de très bons états de service, parce que tu es musicien à part entière. Adama Bilorou Dembélé, c'est à Nietzsche, l'album, c'est beaucoup de disques. Tu travailles avec Marcus Miller, avec Oumou Sangaré, Cheik Tidiane Seck. Mais là, le retour qu'il y a d'Internet, qui, moi, me surprend quand je vois les dizaines de milliers s'ajouter, toi, tu prends ça comment ?
Ben, je prends ça comme si c'est une bénédiction. Voilà, je dirais ça comme ça, parce que c'était inattendu, c'était un moment vraiment convivial en famille. Et du coup, c'est devenu la grande famille, c'est devenu mondial et tout. Et ça a même renforcé aussi l'idée aussi de pouvoir pousser ce projet plus loin. Et papa me disait que, tu sais, un jour j'étais dans un taxi et quelqu'un m'a pris, c'est pas un jeune Ivoirien ou un jeune Sénégalais, qu'il m'a parlé des vidéos. Donc il va falloir qu'on assure, puis on fait la suite là où tout est parti. Et puis chaque fois papa me disait, bon, il va falloir qu'on réfléchisse aux morceaux, il va falloir qu'on pense aux arrangements et tout ça, comment est-ce qu'on peut amener ce projet. Et on a trouvé le nom, il a dit les quatre baguettes et les quatre mains. Après on avait d'autres titres, et bon, chaque fois papa il était inspiré comme d'habitude. Voilà.
Et vous êtes retrouvés à la maison à bavarder, le piano n'est pas loin, son sac n'est pas loin, les marimbas, le balafon n'est pas loin. Alors lui t'offre justement les vibras. Et toi, à l'inverse, tu offres ces fameux balafons, d'ailleurs, au doyen Manou, des balafons qui ont été fabriqués spécialement. Tu m'avais même, d'ailleurs, sollicité pour les transporter, mais on est toujours chargé avec des bagages de caméra et de tournage. Ces balafons, justement, que tu avais fait pour le doyen Manou, ils sont où?
Ben, ils sont là. On était en plein studio avec. Je les ai faits. Quand je suis arrivé, j'ai donné à papa. Donc, on a répété avec à la maison. Et souvent, ils jouaient là-dessus. Et même dans les vidéos, quand on remettait avec Angélique Kidjo pour les l'indépendance, tcha tcha, le balafon il est juste derrière. Il y a plein de gens qui passaient à la maison et le vieil était vraiment content, c'était comme son nouveau bijou et tout. Et quand on est allé au studio, ça avait bougé un peu et moi-même je les ai raccordés au studio. Et du coup, après la séance, papa il est parti, moi j'ai tout ramassé parce qu'on devrait réunir 2 semaines ou 3 semaines plus tard pour pouvoir finir le projet. Et le balafon il est encore avec moi à la maison et voilà.
Et le jour de la fête de la musique, tu as fait quelque chose d'assez extraordinaire. Tu as posté une vidéo où tu joues d'ailleurs sur le balafon et les marimbas sont derrière toi. Tout le monde a remarqué ce détail qui est quand même pas un détail parce que c'est ça veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu le qualifierais comment le doyen Manou? Parce que tu es l'artiste qui finalement aurait été le dernier enregistré en studio avec lui. Pour toi aujourd'hui, quelle dimension est-ce qu'il a pris? C'est pour moi, je dis souvent, de toute façon, c'est un second papa, c'est un ange gardien. La preuve, le conducteur de Fonseca qu'on a écouté en première partie d'émission, mais arrivé en chemin, je ne savais même pas quel aurait été le contenu de la discothèque. Et il y a quelque chose qui m'a amené vers Fonseca et tout est arrivé d'un coup. Donc je parle toujours de lui un peu comme un ange gardien. Toi, tu le verrais comment? Comme un inspirateur? Comme quelqu'un qui te souffle quelque chose à l'oreille?
Ben, je dirais évidemment pareil parce que depuis l'événement, j'ai jamais fait une vidéo. J'ai juste été de partager des vidéos qui existaient déjà. Et ces jours-là, je me suis levé et j'ai vu un message. Bonne fête de père, et je ne sais pas de qui ça vient d'être. Et je me suis levé. Soudainement, j'ai le balafon que je joue, c'est le balafon que mon père il m'a laissé, qui est comme mon héritage. Ce balafon, en fait, c'était le balafon de la jeunesse de mon père qui était égaré dans le village.
Et il a quel âge, ce balafon?
Le balafon, il est dans les 70, et je ne peux pas dire exacte la date, mais c'est un balafon très, très vieux que moi, j'ai remonté et je l'ai gardé auprès de moi comme mon père, quoi, en fait, comme le souvenir.
C'est un talisman.
Voilà. Et bizarrement, j'ai pris ce balafon et j'ai un air de mon père qui est venu, un air de ma tribu, Boabab, un vieux air. Et en même temps, je vois le marimba et je me suis mis devant et j'ai pris et le téléphone, j'ai dit, ben écoute, je vais aider papa avec moi. Il y a Manu qui est là, il y a Baotien qui est là, et je vais jouer pour eux. Et c'est comme ça que je me suis mis à jouer. Et après, quand j'ai fini le morceau, bon, fallait que je sorte ce que j'avais dans le cœur. Et c'est pourquoi j'ai parlé que je souhaitais leur rendre hommage et les remercier. Et je ne finirai jamais de les remercier de tout ce qu'ils m'ont laissé comme héritage, en fait.
J'aime souvent dire à Nietzsche à la fin de tes citations, sur le net, même au quotidien. On rappelle à ceux qui nous écoutent, qui ne comprendraient pas, que c'est un mot très important quand on dit Nietzsche.
Oui, Nietzsche, c'est vrai que c'est un mot que j'ai pris de ma mère ou de mes oncles aussi, et qui s'amusaient à saluer chaque fois merci ou bonjour, au lieu de te dire bonjour, te dire merci. Et un jour, il y a un papa qui m'a dit, dans la vie, quand tu fais quelque chose, tu le fais pour toi-même. Si tu l'as fait du bien, c'est pour toi. Tu as fait du mal, c'est pour toi. Donc tout ce que tu fais, il faut rendre grâce à la vie et aux miséricordes. Donc c'est pourquoi tout ce que j'ai fait, j'ai dit merci, en fait, ça vient de là.
Et ce merci, nous, quelque part, on te le dira. Pourquoi? Parce qu'il y a cet opus avec le doyen Manou qui est en préparation. Dans quelques instants, on va écouter un morceau qui s'appelle Bemba et qui est tiré de cet album à venir. On n'est pas encore dans la réflexion d'une sortie de disque. On est pour l'instant dans la mémoire jusqu'à présent avec Papa Manou, mais aussi avec le doyen Maurice Kanté, qui était lui aussi venu à la radio, et tu étais encore de la partie. Et ce jour-là, d'ailleurs, vous avez exécuté un whisky soda, et le doyen Maurice Kanté, lui aussi, très à l'aise, prend les balafons comme si de rien n'était. Et il y a cette photo incroyable, d'ailleurs, où je figure, et où tu te retrouves avec ces deux doyens. Alors pour moi, ce sont deux doyens, certes, il y a Papa Manou, il y a le doyen Maurice Kanté, mais pour toi, ce sont quand même deux doyens dans ta profession et dans ta vocation qui est la musique. Quand tu regardes et quand tu te retrouves à côté d'eux, moi je t'avais d'ailleurs taquiné en disant mais Est-ce que tu ne vas pas avoir peur de jouer? Parce que c'est comme un examen, c'est comme si tu passais un examen.
Bien sûr, oui, c'est toujours impressionnant, puis c'est émouvant, c'est vraiment fort, parce que dès le bas âge, tu les as vus, tu as rêvé, tu as appris la musique, tu as fait tout à leur image, et après tu te retrouves avec eux, c'est vraiment, même avant cette émission, on avait déjà fait le Cocorico, où papa Maury m'avait appelé aussi, que j'avais amené tous les instruments, et finalement c'est moi qui avais aussi fait tout ce qui était la percussion, puis en suivant sa direction et tout ça, et après, comme il le disait ce jour, je ne sais pas si tu te rappelles, il dit Adama, il est comme un vieux qui est ressuscité. Bon, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais j'avais cette chance de pouvoir aussi le côtoyer, que ce soit lui, Cheikh, ou d'autres vieux d'ailleurs, que ce soit bon rétablissement à lui, et papa aussi, à qui je pense beaucoup, Ismaël, Touré Kounda, Abassirou, et la famille aussi. Donc, j'ai eu cette chance, cette privilège à fréquenter ces vieux et à pouvoir jouer avec eux, à pouvoir les accompagner avec mes percussions, mes balafons et autres instruments. Et pour moi, ça n'a pas de prix, c'est que vraiment, c'est une chance énorme, énorme.
Tu as eu cette bénédiction de travailler avec eux, finalement, et tu as travaillé aussi avec Marcus Miller, qui confiait d'ailleurs le rapport qu'il avait à un moment donné avec Miles Davis, parce qu'on parle toujours de Marcus Miller comme d'un prodige. Et Marcus Miller disait, citait quelqu'un qui lui avait dit « On ne devient un vrai musicien que quand on compose soi-même, quand on fait des choses pour soi-même. » Il faut quand même rappeler qu'il a écrit « Toutou » pour Miles Davis, donc c'est pas un manchot. Mais est-ce que toi, tu te retrouves dans la même situation? Parce que tu as composé très tôt, tu as composé auprès de grandes personnalités. Aujourd'hui, le nouvel album qui va paraître, l'aventure musicale qui va arriver, pour toi, ce serait quoi? Ça va être un tournant, une autre étape de ta carrière d'homme et d'artiste? Comment est-ce que tu résumerais ce qui va arriver?
Mais ce qui va arriver, c'est vraiment aussi quelque part, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour affirmer ma carrière d'homme, voilà, pas avec un grand H, mais voilà, mais je reste quand même modeste, et aussi la gratitude en fait, c'est pourquoi l'album même je l'ai appelé Aniché, c'est vraiment la gratitude de tout ce que j'ai pu récolter depuis mon bas âge jusqu'à maintenant, avec tous ces papas, avec tous ces doyens, tous ces amis, et comme Marcus aussi qui m'avait fait une confident un jour qui me disait que son père il a rêvé de jouer avec Miles Davis et finalement c'est lui qui se retrouve à jouer avec lui, qui compose même pour lui, tu vois, et c'est pareil, moi j'ai mes papas, mes aînés, mes oncles quand ils m'ont vu avec le doyen Manu, avec Maury Kanté et ou avec d'autres Cheikh, Tidiane Cheikh, où ils arrivaient pas, ils disent mais toi tu es né devant nous tout de suite, c'est toi qui joues avec tous ces trucs là alors que nous on arrivait même à les approcher et tout ça. Ben, je dirais c'est pas pareil avec Marcus, mais c'est un peu quelque chose qu'on peut avoir en lien, quoi, qui est la bénédiction du divin, voilà.
Mais c'est quelque chose que vous avez en lien et en commun, et c'est surtout le talent. Adama Bilorodambela avec nous. On va te donner une partie de la route en écoutant ce morceau, Bemba, qui est une avant-première et qui n'est pas fignolé encore dans cette version, mais où on entend la magie, le doigté, d'ailleurs du doyen Manu Dibango, qui depuis les étoiles est sacrément, sacrément fier de toi, et on en parlait beaucoup, on parlait souvent de toi. D'ailleurs, comme on en parle avec Claire, elle n'est pas la seule, MD, James, Georgia, qu'on embrasse, Marva, parle toujours de ton génie. Et puis on a un autre qui est au Canada, qui se trouve là-bas, qui est Kabi Kandia Kouyaté. Je le salue et personnellement mon rêve serait de vous voir Kabi et toi sur une scène. Il a intérêt à vite revenir par ici parce qu'il nous manque lui aussi beaucoup. En tout cas, bravo encore à toi, Adama, et belle aventure se poursuit.
Mais comme d'hab, et j'ai aussi envie de remercier aussi tous ceux que tu viens de citer, que ce soit Michel, Marva, James et Claire, et aussi
la grande
sœur Georgia, que j'appelle ma grande sœur chérie, parce qu'elle était toujours aussi présente pour moi aussi, qui m'a toujours donné des conseils, qui a été toujours là comme une maman aussi, protectrice et tout ça. Et je suis vraiment content d'avoir partager ce petit chemin avec eux et de profiter aussi de leur papa biologique qui est aussi mon papa spirituel, que je les remercie toujours et que je reste toujours reconnaissant envers eux et envers tout ce que le vie a pu apporter dans ma vie, en fait. Je les remercie tous.
C'est Aniché Adama Bilorodambela qui était avec nous et puis justement, on écoute ce titre Bemba sur Africa Radio. un titre que vous découvrez aujourd'hui en avant-première sur Africa Radio, un des derniers morceaux enregistrés en studio par le doyen Manou et qui figurera sur l'album à venir d'Adama Bilorou Dembélé qui était avec nous ce dimanche. C'est déjà fini pour la Maraboutique. La semaine prochaine, eh bien, le mois de juillet sera déjà là. On n'oublie pas pour autant les gestes barrières pour contrer la pandémie. Merci à François Richard qui a réalisé cette émission. N'oubliez pas le podcast sur le site africaradio.com et sur notre application. Et on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme. Et avec le doigt Manou depuis les étoiles, Robert Braza Tito vous dit...